Certains sont là pour ma voix suave, d'autres, notamment des journalistes de Blast et de Street Press, sont là pour se masturber sur Baptiste.
Ah putain.
Mais la majorité d'entre vous sont ici pour nous écouter, remettre à leur place les collectivistes du monde entier. Bienvenue dans Radio Dixie, comment tu vas Baptiste?
Ben ça va, écoute, on démarre l'année en fanfare, comme d'habitude. Quand on fait des Radio Dixie toutes les semaines, c'est le calme plat. Là, pendant 2-3 semaines, c'était la galère pour faire Radio Dixie. Le monde entier change, tu vois. Il y a tout qui se passe, c'est un truc de fou.
On ne vit plus dans le même monde.
C'est incroyable, tu reviens, tu loupes deux épisodes de Radio Dixie, tu reviens, la planète a changé. Il faut un épisode de 6 heures.
C'est vrai. On va évidemment vous parler de l'arrestation par l'armée américaine de Nicolas Maduro, le narco-dictateur vénézuélien, avec Donald Trump aux commandes. On va aussi aborder un autre sujet qui fait énormément parler, les milliards et milliards de subventions aux garderies fraudées par la communauté somalienne dans le Minnesota. Puis on va enchaîner sur les États-Unis, qui sont en passe d'enregistrer la plus forte baisse annuelle du nombre de meurtres jamais enregistrés. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Mais avant de se lancer à... Quoi de nouveau de ton côté en ce début d'année, Baptiste?
Eh bien, écoute, je vais juste souhaiter la bonne année à tous les gens qui nous suivent depuis un bon moment déjà. Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'on fait Radio Dixie maintenant? Ça doit faire 3 ans, je pense. Presque, et on a un public régulier, on a bien grossi aussi, ça se développe bien. Je sais qu'on a eu un impact dans la sphère, on va dire, la droite... sur Internet, puisque tout le monde nous le dit, notamment d'autres gros influenceurs, etc. Donc, ça fait très plaisir. Et donc, pour bien démarrer l'année, quoi de mieux que notre tombola saisonnière de chasseautexas.com à gagner un voyage au Texas pour 2 personnes avec le vol, le logement inclus et plus de 2000 euros d'activité au choix sur notre catalogue. Vous savez qu'on en fait 4 par an. On fait une tombola à chaque saison. Et tout l'argent récolté est au profit de notre association partenaire SOS Maman Solo. C'est cette association qui s'occupe des jeunes femmes françaises enceintes en difficulté. Donc, pour participer, rien de plus simple, vous avez le lien en description. Une participation à la tombola, c'est un don de $25 sur la cagnotte de SOS Maman Solo. Simplement ne pas faire son don en anonyme pour que, bien sûr, si vous soyez tiré au sort, on puisse vous contacter. Et si vous voulez participer plusieurs fois, faire peut-être plusieurs dons séparés de $25. Ne faites pas de dons de $50 ou des dons de 75 ou des dons de 100. Faites plusieurs dons séparés de $25. Et le tirage au sort aura lieu le 15 janvier. Je vous rappelle que vous avez une vraie chance de gagner. C'est un très gros lot à chaque fois qu'on offre, mine de rien. C'est un voyage à plusieurs milliers d'euros parce qu'il y a le vol, le logement. Donc, c'est un vol direct de Paris jusqu'au Texas. Le logement, 2000 euros d'activité que vous choisissez vous-même sur le catalogue. Vous choisissez également vos dates de voyage en fonction évidemment des dates qu'on a de disponibles, mais c'est vous qui définissez les dates. Donc c'est un gros lot et il n'y a pas tant de participants que ça à chaque fois. C'est pas comme les jeux concours de certains influenceurs où, bah, comme ils ont des très très grosses communautés, il y a des centaines de milliers de participations. Mmh. Là en général, il y a environ 400 participations, donc c'est quand même une vraie chance de gagner. D'ailleurs, j'ai repartagé la story de la dernière gagnante, hein, qui a été très surpris de gagner. Elle a dit, moi, je suis une poissarde normalement. Et donc là, j'ai gagné un voyage au Texas. Donc, comme quoi, tout est possible. Donc voilà, vous faites une bonne action pour bien démarrer l'année et vous prenez une vraie chance de gagner un magnifique voyage. Donc, je le redis, ça nous apporte du soutien. Encore une fois, c'est un truc que je fais chaque saison où je ne prends aucun argent. Ça me coûte beaucoup d'argent, hein, puisque c'est moi qui finance le voyage. Je ne me sers pas de l'argent de la cagnotte pour rembourser le voyage, hein. Le voyage, il est à mes frais. Et donc, tout l'argent va chez SOS Maman Solo. On est une équipe de bénévoles qui se démène vraiment. On est une équipe de filles qui travaille très, 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 très dur. Et on a les bénévoles, toutes les mamans... volontaires pour accompagner les jeunes femmes enceintes, toutes les mamans marraines, on en a une centaine sur toute la France. Donc voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce projet, sur SOS Maman Solo, qui se démènent. Donc montrez-nous votre soutien. En plus, là, on ne vous demande pas un soutien gratuit, il y a un vrai prix à gagner. Voilà, je vous le dis, mobilisez-vous s'il vous plaît. Le lien est en description, allez-y.
Parfait. Comme d'habitude, je vais faire mon petit don aussi parce que c'est important, c'est pour la bonne cause. Est-ce qu'il y a autre chose de ton côté, mec?
Non, c'est tout. Hein.
Bah, génial. Moi aussi, je vais faire vite parce qu'on a des choses à vous dire aujourd'hui. 4 choses très rapidement pour faire ma promo. Premièrement, les célèbres casquettes du Guise qui étaient uniquement disponibles en version casquette de baseball sont maintenant aussi disponibles en version casquette de camionneur, en casquette trucker sur legeese.com. Deuxièmement, c'est tout nouveau aussi, sur legeese.com, vous pouvez maintenant réserver un appel avec moi. J'ai déjà fait plusieurs appels, notamment avec des entrepreneurs en ligne qui avaient besoin de comprendre comment organiser leur structure entrepreneuriale ainsi que leur vie pour payer 0% d'impôts en toute légalité, par exemple. Troisièmement, comme vous le savez, je vous propose aussi de vous accompagner dans l'obtention de votre carte de résident au Paraguay, que ce soit pour y vivre, comme plan B, vous pourrez obtenir la résidence fiscale à 0% en tant que digital nomade. Toutes les infos sont sur legeese.com, mais vous pouvez aussi m'écrire directement à contact@legeese.com si vous êtes intéressé. Et quatrièmement, pour finir, n'oubliez pas d'aller sur patreon.com/legeese pour avoir accès à mes podcasts exclusifs, Les Méchants Capitalistes et à la découverte des abonnés. Tous les liens sont en description. Est-ce qu'on se lancerait pas dans la première
étape ? Allez, on est chaud. Bien sûr. Là, on ne peut pas y échapper.
Aïe, aïe, aïe. Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h du matin, l'armée américaine a mené une attaque secrète contre plusieurs endroits au Venezuela, dont Caracas, la capitale. Pendant cette opération, des soldats américains ont capturé le narco-dictateur du Venezuela, Nicolas Maduro, ainsi que sa femme, Cilia Flores. Ils ont été amenés dans la ville de New York, où ils seront jugés pour plusieurs crimes en lien avec le trafic de drogue. Donald Trump a annoncé que les États-Unis gouverneront le Venezuela, en attendant que quelqu'un d'autre puisse assurer le pouvoir. Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse, a déclaré samedi Donald Trump. Pour vous remettre très rapidement en contexte, la relation entre les États-Unis et le Venezuela est mauvaise depuis longtemps, mais les choses ont empiré ces derniers mois. Donald Trump a accusé le pays d'Amérique du Sud d'inonder son pays de drogues dangereuses. Ainsi, sous ses ordres, de nombreux bateaux vénézuéliens ont été bombardés. Pour Maduro, l'enjeu de la drogue est un faux prétexte utilisé par les États-Unis. Leur véritable objectif serait de profiter des immenses réserves de pétrole du Venezuela. Il y a un commentaire qui t'a été fait à ce sujet-là. Est-ce que tu veux que je le lise avant que tu commences à réagir ? Comme ça, tu fais
du cœur de d'abord qu'on commence par un commentaire, on peut commencer par un commentaire. Ouais. C'était juste pour faire un exemple, mais oui, vas-y.
Alors, c'est un commentaire de Ellie_LNS.
Voilà. C'est important de lire le nom.
Les commentaires sont publics, il faut assumer.
C'est important de lire le nom. Non, mais je vais te dire pourquoi c'est important de lire le nom après. Vas-y.
Ah, ok, je crois que je commence à comprendre.
Alors, il faut d'abord préciser. Ce commentaire, il m'est fait parce qu'il y a quelqu'un qui a mis la photo de Maduro qui a le cache-œil et les cache-oreilles, tu sais. Bon, ça, c'est un protocole des forces spéciales. Les Français font la même chose. Hein. Ça, c'est juste pour pas que le mec puisse prendre des infos sur les identités autour de lui, les protocoles, ce qui se dit, etc. C'est juste un protocole de sécurité. C'est pas une question d'humiliation ou je sais pas quoi, tu vois. Et donc, le commentaire disait que c'était vicieux de faire ça, en gros. Tu vois, c'était genre de maltraiter le gars, tu vois. Et moi, je répondais, oui, on devrait prendre exemple sur la France et bichonner les narcotrafiquants, tu vois. Et là, j'ai un autre mec, donc c'est pas le mec qui a mis le commentaire là-bas qui me répond, donc Ellie. Et vas-y, je te laisse lire.
Ok, donc Ellie répond à Baptiste Marché 4, Baptiste_Marché4, si vous voulez suivre cet influenceur sur Instagram. Peut-être enlever ta bouche des verges circoncises de Tel Aviv et de la propagande sioniste Déodati, souveraineté d'un pays, ça te dit rien ? Non, on sait tous que c'est l'accès au pétrole qu'ils convoitent, on n'est pas à l'abri qu'ils fassent ça en France.
Voilà, donc là, on a le commentaire typique de la salope de base. Là, tu les reconnais. Les mecs, c'est il n'y a que les victimes qui écrivent comme ça. Tu sais, qui directement vont dans l'insulte, et etc. Les mecs solides, ils ne parlent pas comme ça en fait, sur Internet. Mmh. Les mecs qui s'assument dans la vie, ils ne parlent pas. Là, c'est les énormes frustrés. Tu sais que c'est la serpillière à foutre du quartier. Donc, il faut qu'ils soient tout de suite extrêmement agressifs, extrêmement insultants. Et en fait, le petit truc marrant, c'est le début qui me dit. Donc déjà, je ne sais pas pourquoi ils parlent de ça, parce que je ne vois pas le rapport entre les juifs, là, pour le coup, et mon commentaire. Mais il dit « Peut-être enlever ta bouche des verges circoncises de Tel Aviv ». Et le mec s'appelle Eli. Eli qui vient de Eliyahu, qui veut dire « Mon Dieu et Yahvé » en hébraïque.
C'est comme Eli Semoun, par exemple.
Oui, c'est un prénom 100% juif qui veut littéralement dire « Mon Dieu et Yahvé ».
C'est vrai que c'est drôle.
Donc, finalement, je crois que la seule personne qui a eu sa bouche sur les verges circoncises, mon petit Eli, c'est ta mère, apparemment. Visiblement, c'est ta daronne. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'après, il m'appelle Déodati. Parce que c'est les mecs qui se rendent déjà bon. Le mec, quand il dit ça, j'imagine qu'il pense que je suis pro-sioniste, etc. Alors que c'est parce qu'il s'est jamais intéressé à mes positions sur Israël, etc. Ouais. Parce que j'ai jamais été pro-Israël ou quoi que ce soit. Je l'ai dit plein de fois, je suis certainement pas pro-juif ou je sais pas quoi, mais Bon, ça, c'est généralement l'insulte de base des mecs qui se renseignent pas. Et il dit Deodati parce qu'il pense que c'est genre mon nom caché, etc. C'est-à-dire, je l'ai expliqué un millier de fois, c'est juste la deuxième partie de mon de famille. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas. Moi, ça ne me fait rien quand on m'appelle comme ça. C'est juste, il manque une partie. Quoi. C'est comme... D'ailleurs, comme quand on m'appelle Baptiste Marchand, en vérité, il manque une partie. C'est Marché Deodati, voilà, c'est juste ça mon nom, tu vois. Il n'y a rien de spécial. Mais en fait, lui, il pense ça parce qu'il pense qu'il me doxe, tu vois. C'est-à-dire, genre, il donne mon nom caché, tu vois. Mais lui, par contre, il donne pas son nom. Tu vois, c'est-à-dire que lui est en anonyme sur Instagram. Mais par contre, le premier truc qu'il fait, c'est donner un nom. Et c'est marrant parce que ça, c'est vraiment une technique de juif, tu vois. Donc, tu vois, c'est rigolo quand même. Comme quoi, hein, finalement, les racines,
ah oui,
elles ressortent.
Ah oui, tu veux dire doxé par rapport à toute la communauté juive française qui a beaucoup doxé à l'extrême droite.
Bah, c'est ça, okay. Voilà, tu vois, c'est marrant. Et après, on sait tous que c'est l'accès. Tu sais, on sait tous. Ça, c'est le nom. Il va falloir qu'on en parle de ça parce que on sait tous, on balance, c'est le pétrole. Ouais, ils sont là pour le pétrole. Les gens n'ont aucune info sur quoi que ce soit, mais c'est le truc facile à dire, tu sais, genre, non, mais de toute façon, ils sont là pour le pétrole, c'est le pétrole. Non, mais et vous savez de quoi on parle exactement? Vous savez de quel pétrole on parle, de quelle quantité? Non, mais c'est les Américains, ils sont là pour le pétrole, tu sais. Donc, arrêtez de dire des choses comme ça, vous rendez ridicule. Alors, je sais que ça va être la majorité de ce qu'on va voir sur Internet, parce que les gens ne veulent pas se renseigner, ne veulent pas faire de recherche, etc. Et donc, c'est facile de juste gueuler dans le sens de genre, oh, c'est le pétrole, tu vois. Quel pétrole? Non, le pétrole. Donc, dis donc, allons vers des choses intelligentes, ok? Est-ce que tu veux parler de ça? Est-ce que tu veux d'abord expliquer la situation du pétrole au Venezuela? Après, je pourrais donner des infos complémentaires, peut-être, non?
Ouais, t'as raison, très rapidement. Ceci, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Venezuela, c'était un pays très, très riche. Hein. C'était le quatrième pays en termes de PIB par habitant au siècle dernier, notamment grâce à leurs ressources pétrolières, mais pas uniquement. Il y avait aussi beaucoup d'entrepreneuriat, il y avait beaucoup d'investissements dans d'autres secteurs grâce à l'impulsion du pétrole. Et ces enclaves communistes, notamment avec Chavez, ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir au Venezuela et puis ils ont commencé à exproprier un grand nombre d'entreprises privées, notamment des entreprises américaines qui avaient investi énormément au Venezuela pour les aider à extraire ce pétrole, pour donner du travail sur place, pour permettre à l'économie vénézuélienne, entre autres, de se développer. Et il s'avère que ces grosses entreprises américaines, lorsqu'il y a eu les expropriations communistes, elles se sont aussi faites exproprier de force. On leur a proposé des contreparties qui étaient très faibles par rapport au prix de la valeur de leur entreprise, et des contreparties qui ont plus ne jamais été payées. Donc, mis bout à bout, c'est des dizaines de milliards de dollars qui ont été volés aux entreprises américaines. Des dizaines de milliards de dollars. Hein. Pour vous donner une idée, 20 milliards de dollars, c'est le PIB de la Bolivie ou de l'Islande. C'est l'équivalent d'un PIB d'un pays moyen, quoi. Tout ça, ça a été volé aux entreprises américaines, aux Américains, au moment de la prise de pouvoir communiste au Venezuela. Et donc... a priori, à venir récupérer son dû avec quelque chose de tout à fait normal.
Oui, parce que donc il faut comprendre par rapport à ces réserves de pétrole, parce qu'on entend souvent le Venezuela, c'est la plus grosse réserve de pétrole mondial. Alors, c'est pas si simple, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de pétrole. Le pétrole qu'il y a au Venezuela, c'est ce qu'on appelle du pétrole lourd. D'accord ? Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails scientifiques, mais c'est un type de pétrole qui est difficile à extraire, notamment parce que celui-là, en plus au Venezuela, est en profondeur, etc. Donc, il est dur à raffiner, il est dur à extraire. Il faut vraiment des énormes installations et des ressources pour pouvoir le transformer, le vendre, etc. Donc, en fait, c'est un petit peu comme quand on parle de l'Afrique et qu'on dit l'Afrique a les plus grosses réserves d'or, etc. Mais il faut avoir les capacités. En fait, c'est ça, le pétrole, quand il est dans le sol, il ne vaut rien. D'accord ? Ce qu'il vaut, c'est quand on peut l'extraire, le vendre, l'acheminer, le raffiner, etc. C'est la même chose que n'importe quelle ressource. C'est pour ça que le Venezuela est devenu riche. Il est devenu riche non pas en exploitant son pétrole, parce que lui, il n'avait pas les capacités de le faire, ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas les capacités de le faire, mais en laissant des entreprises étrangères le faire. Et il n'y avait pas que des Américains. Je rappelle qu'il y a des entreprises italiennes aussi, russes,
canadiennes.
C'est pour ça que Mélanie, notamment, a salué ce qui s'est passé au Venezuela, parce que je pense qu'elle pense aussi à récupérer les entreprises italiennes. Les Français, nous, on n'avait pas de pétrole là-bas. On n'avait pas d'entreprise française qui exploitait le pétrole là-bas. Mais les Italiens, notamment, on avait. Donc, il n'y avait vraiment pas que les Américains. Ces entreprises, elles se sont installées légalement, c'est-à-dire qu'elles ont acheté les terrains, elles ont acheté les droits miniers. Donc, elles ont acheté les droits d'exploitation, elles ont payé, elles ont installé les structures, etc., commencé tout. Puis, elles se sont fait voler par le pouvoir communiste qui est arrivé, qui a dit non, maintenant, c'est nous qui exploitons.
Elles payaient 10% de taxes en moyenne au Venezuela, ce qui n'est pas négligeable.
Et en plus, elles payaient les taxes au Venezuela. Mais c'est comme ça que le Venezuela est devenu riche. Il est devenu riche en vendant des droits miniers, des terrains et en taxant le pétrole exploité par les entreprises étrangères. C'est comme ça que ça fonctionnait. Lui, il a dit non, non, maintenant le pétrole, c'est nationalisé, c'est à nous, etc. Le problème, c'est que même en ayant volé les installations, etc., à toutes les entreprises étrangères, ils n'ont pas les capacités d'acheminer, ils n'ont pas les capacités de traiter, etc. Puis les États-Unis ont dit, donc c'était Valero, notamment une des grosses entreprises qui était sur place, les États-Unis ont dit, attendez, puisque vous avez volé tout ça à des entreprises américaines, mais nous, non, on ne va pas continuer à acheter du pétrole. Parce que ce qui se passe, c'est que ces entreprises américaines, elles exploitaient, elles sortaient du pétrole, elles le vendaient et au gouvernement américain et autres. D'accord ? À partir de ce moment-là, le gouvernement américain dit, bah non, mais on met un embargo, on n'achète plus ce pétrole parce que c'est nous, c'est des entreprises à nous, vous l'avez volé à des citoyens américains, à des entreprises américaines.
Il y a une entreprise ConocoPhillips qui s'est fait voler 11 milliards à elle seule. 11 milliards.
Donc évidemment, ils ont arrêté d'acheter. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le marché s'est effondré et qu'eux, ils étaient plus capables derrière de gérer l'exploitation, le raffinage de ce pétrole, etc. Ils ont commencé à en vendre un petit peu au marché noir par derrière, etc. Et là, ils étaient en train de préparer des accords avec la Chine. Je pense que Maduro était en train un petit peu de voir pour faire un accord, c'est ce qu'on laissait sous-entendre, avec la Chine pour que la Chine exploite finalement ce pétrole et tout. Parce que c'est du pétrole dormant et qu'il faut bien que quelqu'un l'exploite au bout d'un moment et qu'eux, ils ne sont pas capables. Donc, c'était un allié de pas. Et Trump a dit non, c'est mort en fait. On ne va pas laisser. On s'est déjà fait voler, etc. Là, maintenant, si ça va carrément aux Chinois, c'est pas possible. Donc, quand on dit les Américains, ils sont là pour voler le pétrole, etc., il n'y a rien à voler. Ils sont là pour récupérer des choses qui ont été volées à des entreprises américaine.
Quand une entreprise américaine elle débarque aux États-Unis et qu'elle achète un terrain vénézuélien, c'est de l'argent qui est acheté c'est de l'argent qui est donné à des Vénézuéliens. C'est des Vénézuéliens qui acceptent
et les droits et les droits d'exploitation miniers.
Parce qu'après, il y a tous les gauchistes qui vont te dire ils ont volé les terres vénézuéliennes, ils ont exploité le Venezuela. Non, ils ont payé, ils ont investi.
Mais ils ne sont pas venus avec des chars d'assaut, etc. Ils n'ont pas envahi le Venezuela. Valero, ils n'ont pas envahi le Venezuela. Ils sont arrivés, ils ont payé. Et c'est justement ce qui a rendu le Venezuela riche et qui en a fait un des pays les plus riches du continent américain. Donc c'est vraiment.
Du monde. Quatrième pays le plus riche du monde, mec, en termes de PIB par habitant.
PIB par habitant.
Plus riche que l'Allemagne en termes de PIB par habitant à l'époque.
Donc bref.
Je sais pas si tu te rends compte, mais il y avait des Portugais, des Italiens du Sud qui voyaient le Venezuela comme l'Eldorado de l'Amérique du Sud. Et il y a d'ailleurs beaucoup de Portugais, d'Italiens qui se sont installés au Venezuela à cette époque. En fait, pour comprendre pourquoi le Venezuela s'est complètement cassé la gueule, alors déjà évidemment, avec le communisme et l'expropriation, ça n'incite pas le développement économique. Mais il faut savoir qu'ils ont exproprié toutes les entreprises privées, même hors pétrole. Okay. Ils n'ont pas réussi à les faire tourner, ils ont tout nationalisé, ils n'avaient plus que le pétrole sur lequel survivre. Et c'était quand même un gros atout. Donc pendant quelques années, les Vénézuéliens ont continué à avoir un niveau de vie acceptable. Mais le problème, c'est que sachant qu'ils n'étaient plus diversifiés, qu'ils n'avaient plus d'entreprise parce que tout s'était cassé la gueule et qu'ils n'avaient plus que le pétrole, dès que le cours du pétrole s'est cassé la gueule, c'est tout le Venezuela qui s'est cassé la gueule. Et aujourd'hui, c'est le 170e pays en termes de PIB par habitant.
Et par rapport à la drogue, quand on entend que c'est une excuse, etc., là, pour le coup, c'est pas vrai du tout. Il y a plein de preuves statistiques qui le montrent. Le Venezuela, c'est pas forcément une énorme plateforme de production de drogue. On sait que, parce qu'on parle de cocaïne et des produits dérivés de la cocaïne, on sait que la majorité de la cocaïne est produite en Colombie. Par contre, le Venezuela, c'est celui qui achemine la drogue aux États-Unis. C'est eux qui ont les réseaux de distribution avec les gangs aux États-Unis. Et la majorité de la cocaïne qui circule aux États-Unis vient du Venezuela par des cartels qui
passent par le Venezuela.
Qui passent par le Venezuela. Et pourquoi ? Parce que notamment, ils ont l'appui du gouvernement vénézuélien. On le sait, on l'a vu, ça a été documenté. Il y a même eu l'affaire des neveux de la femme de Maduro. Je ne sais pas si tu sais ça. Alors je ne vais pas essayer de dire les noms. Peut-être que tu les as parce que c'est en espagnol. Mais c'est un cartel, je sais pas, un cartel avec un nom, évidemment, en espagnol.
Cartel del Sol ou de los Soles ?
Non, il me semble que c'est un autre truc, mais bon, je ne sais plus. Les neveux de la femme de Maduro, qui faisaient partie de ce cartel, qui se sont fait arrêter aux États-Unis avec la drogue, etc., ont eux-mêmes avoué, parce que les Américains n'arrivaient pas à comprendre, n'arrivaient pas à trouver d'où ils partaient et comment c'était possible qu'ils aient acheminé ces drogues. Ils ont fini par montrer qu'en fait, ils passaient par les pistes de l'aéroport présidentiel. Ils utilisaient les pistes présidentielles. Et ça, c'est eux-mêmes qui l'ont avoué. Hein. Et ce n'est pas des trucs dont on ne va pas dire « oui, mais c'est sous la torture » ou je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, ça n'a... c'est un truc sorti de nulle part, tu vois, personne pensait à ça, tu vois. Bref, ouais, tout ça pour dire, depuis que Trump, et si vraiment c'est pas le cas, s'il n'y a pas de drogue qui vient du Venezuela, etc., il va falloir qu'on explique quelque chose. Depuis 2024, qu'on a commencé à abattre les bateaux qui viennent apporter la drogue du Venezuela. C'est-à-dire qu'il y a de la reconnaissance qui est faite. Quand un bateau est identifié comme détenant de la drogue et en route vers les États-Unis, donc c'est des types de bateaux bien particuliers qu'on appelle les bateaux cigarettes, etc. C'est des bateaux extrêmement rapides que les gardes-côtes américains ont beaucoup de mal à arrêter. C'est pour ça qu'avant, c'était un vrai fromage, parce qu'en fait, ils sont tellement rapides, puis les mecs sont vraiment équipés. Entre le moment où tu réussis à les voir, à les identifier, et le moment où finalement tu vas lancer une patrouille à leur arrête, la plupart du temps, ils arrivaient à échapper aux patrouilles des gardes-côtes américains. Depuis que Trump a dit « Nique sa mère, on les explose avec les drones », c'est-à-dire qu'il ne se pose plus la question, il envoie un drone, tu vois, il y a un mec qui est tranquille sur le bateau, tu vois, limite sur ses chiottes, tu vois, avec le truc, boum, il appuie sur un bouton, et terminé, il y a 3 tonnes de cocaïne qui sont distribuées aux poissons. Donc, d'ailleurs, les poissons dans le golfe du Mexique, je pense qu'ils doivent être, depuis 2024, tu dois avoir des poissons, ils doivent être speed.
Ils ont créé tout un centre financier avec une bourse océanique.
C'est clair. Mais donc depuis qu'on explose les bateaux, entre 2023 et 2024, sur un an seulement, 27% d'overdose, de morts par overdose en moins aux États-Unis. D'accord ? Donc si c'est du bullshit, d'où vient ce chiffre ? Comment vous avez 27% d'overdose en moins aux États-Unis ? Parce que souvent, les gens aussi, il y a une critique qui est faite qui disent « Ouais, mais là, c'est pas la cocaïne le plus gros problème aux États-Unis. » Mais vous savez, le crack, c'est fait à base de cocaïne. Et le crack, c'est un énorme problème aux États-Unis. Un tiers des décès par overdose aux États-Unis sont liés à des produits faits à base de cocaïne, que ce soit de la cocaïne, du crack, etc., les speedballs, etc. Un tiers des décès. Donc si, c'est un gros problème. Je vous assure que le crack, pour moi qui fais beaucoup de distribution de charité avec les SDF et tout ici, je peux vous assurer qu'il y en a énormément qui tournent au crack. Énormément, vraiment. Entre le crack et la meth, c'est les deux trucs, mais il y a vraiment... c'est le crack, vous en voyez partout. Des mecs avec des pipes à crack, etc., vous en voyez partout. Donc le crack, c'est un énorme problème ici. Et d'ailleurs, tous les gens des narcos, comment on appelle ça en français, des stupes, tous les policiers des stupes, etc., vous disent qu'il y a une...
Ah, les narcs aux États-Unis, ok.
Parce qu'aux États-Unis, ça s'appelle les narcotiques. Les stupes, les policiers des stupes aux États-Unis vous le disent, il y a des témoignages partout qui disent que la drogue s'est effondrée, enfin le marché de la cocaïne s'effondre, les prix explosent parce que du coup, il y a beaucoup moins d'acheminement, etc. Donc ça fait que beaucoup de mecs ne peuvent pas. Du coup, c'est plus compliqué d'avoir des produits qui sont les produits pas chers comme le crack, etc. D'où la diminution des morts par overdose. Et on pourrait dire, mais ils vont. Se diriger vers d'autres produits et tout, certainement. En attendant, les chiffres sont là.
Ouais. En fait, d'un point de vue strictement résultat, c'est incontestable que Trump atteint ses objectifs ou du moins va dans la direction qu'il souhaite. Moi, de mon côté, d'un point de vue principe, moi, je pense que la drogue, c'est une question d'éducation et puis que ça fait de la sélection naturelle. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui.
Oui, mais la question, c'est de savoir est-ce que mais je suis tout à fait d'accord avec toi. La question, c'est de savoir est-ce que le gouvernement vénézuélien aide les cartels et le fait en connaissance volontairement.
C'est une évidence. D'ailleurs, c'est très bien qu'ils aient pas buté à Maduro parce qu'on va pouvoir comprendre et savoir tout ce qui se passe réellement derrière tout ça.
Ouais. Et avec les contrats avec la Chine, pourquoi les alliances avec la Chine sont encore plus problématiques de ce côté-là ? Parce qu'on sait déjà, on a déjà documenté, et c'est des choses qui sont officielles, que vous pouvez vérifier, que la Chine fournit, enfin, c'est pas qu'elle fournit, c'est que la Chine vend notamment du fentanyl à des cartels, ça on le sait, c'est-à-dire que les cartels ont des entreprises pharmaceutiques au Mexique ou en Amérique du Sud, en Amérique centrale, donc en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, et ils achètent à des entreprises chinoises pharmaceutiques légales des dérivés de fentanyl, etc. Et eux, ensuite, les vendent illégalement aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, de manière générale, c'est illégal de toute façon d'acheter des médicaments de l'étranger. Donc, ils distribuent sur le marché noir des médicaments qui sont, eux, achetés légalement. Et donc, la Chine se dit, nous, on ne fait que vendre légalement des médicaments, un truc. Sauf que la Chine, vous imaginez bien qu'ils ont des services de renseignement, c'est pas des Mongols, ils savent très bien ce qu'ils font, et eux, ils le font également pour affaiblir les États-Unis, parce que la Chine, exactement, pour le coup, n'a pas de problème de drogue, c'est marrant.
Et
d'ailleurs,
c'est là où l'aspect État-gouvernement, minarchie, qui défend son pays, rentre en compte et rend légitime l'action, évidemment.
Voilà, et je veux finir sur un truc, pour bien comprendre, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est plutôt, et vous l'avez normalement si vous me suivez depuis longtemps, non interventionniste, d'accord. J'étais contre la guerre en Irak, j'étais contre l'intervention en Syrie face à Bachar Assad, contre l'intervention en Libye. Donc vraiment, je suis quelqu'un de non interventionniste. Mais il faut bien différencier, d'accord, deux choses. Déjà, d'une, la première chose, c'est que j'ai trouvé que cette opération a été très bien faite parce qu'il n'y a pas d'envahissement du pays, on n'a pas, tu vois, donc ça.
Il n'y a pas de sang vénézuélien qui a été versé.
Non, et ni américain, aucun soldat américain.
La blague qui tourne en ce moment, c'est que ça fait 4 ans que Poutine essaie de choper Zelensky et que Trump, il chope Maduro en 3 heures.
Non, mais alors, pour les gens qui pensent... Hein. Parce qu'il y a des gens qui dévaluaient ça en disant « Ouais, mais le Venezuela, c'est que la 50e puissance mondiale, etc. » Vous vous rendez pas compte de ce que c'est. J'ai parlé avec des amis à moi, des forces spéciales françaises qui ont déjà fait des échanges avec la Delta Force, justement. Ils me disaient « Non, mais... tu n'imagines pas la complexité de la mission qui vient d'être effectuée. Je pense que pour nous qui sommes des moldus, entre guillemets, on ne se rend même pas compte à quel point. Mais pour les gens du milieu, c'est exceptionnel ce qui a été fait. Il faut savoir qu'il y a 150 avions qui ont été envoyés au Venezuela qui ont volé à 30 mètres du niveau de la mer pour ne pas se faire détecter. Enfin, il y a énormément de choses. C'est-à-dire que oui, la Delta Force, c'est ceux qui ont chopé. Donc la Delta Force sont les meilleures forces spéciales au monde avec les Navy SEALs. Hein. Et encore une fois, c'est... il suffit de demander à des gens des forces spéciales françaises, ils vous le diront. Et c'est la Delta Force qui a sorti ces Maduro, mais c'est en coopération avec la Navy, l'US Air Force, etc., les Marines. Il y a eu toute une task force autour de ça qui a été exceptionnelle, et ils ont gardé le secret parce que d'habitude ces choses-là fuitent tout le temps. Vous avez toujours des lanceurs d'alerte, des choses qui disent attention, on sait que le Venezuela va être frappé. Vous pouvez regarder généralement toutes les frappes qu'il y a eu avant, tous les trucs comme ça, on sait dans les jours avant qu'il y a quelque chose qui va se passer. Là, rien. Et
surprise générale.
Encore pire, le plan était au point et tout le monde était prêt depuis longtemps et ils attendaient la bonne météo pour le faire. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que tout était prêt et au moment où ils ont eu la nuit qu'il fallait, ils ont dit « let's go, c'est maintenant ».
C'est des risques, hein. C'est ultra risqué, hein, de voler à 30 mètres du niveau du sol. Hein. C'est
une machine de guerre, les mecs. Il y a tout plein de choses.
Et,
voilà.
Ouais. Et en plus, le Venezuela, c'est un
zéro
pays ultra,
matériel.
C'est un pays ultra militarisé. Hein.
Bah oui, oui. Zéro matériel américain perdu. Hein. Zéro putain, matériel américain perdu, c'est exceptionnel. Donc vraiment une très belle opération. Et encore une fois, là, quand vous touchez directement aux intérêts de votre pays, c'est normal. Et pour ceux qui diraient « Ouais, mais voyez, les Américains font tout le temps ça, etc. », il faut savoir raison garder. Je vous rappelle quand même qu'on a fait la même chose, la France a fait la même chose de nombreuses fois. Ingérer, quand on dit non, mais un pays ne devrait pas ingérer pour un changement de gouvernement d'un autre pays, on l'a fait avec Bokassa. On l'a fait avec Gbagbo. Je rappelle, Gbagbo, c'était quoi? En 2011, il me semble. Si, vous me corrigerez si je me trompe dans les dates. Parce que Bokassa, c'était dans les années 80. Gbagbo, c'était en 2011, d'accord? On l'a fait avec Kadhafi. En 2013, il me semble. Donc, attendez, on est qui pour juger? On est les spécialistes, les Français, de ce genre de choses. Alors nous, je suis d'accord, c'est toujours en Afrique, parce que chacun a ses intérêts. Les Américains ont leurs intérêts en Amérique et les Français ont leurs intérêts en Afrique. Mais quand il s'agit Bokassa, on a quand même été fort. On l'a mis au pouvoir et on l'a destitué. D'accord ? Quand il est devenu incontrôlable. Gbagbo, on l'a destitué. On a mis, je crois qu'il s'appelle Bayara. J'ai oublié son nom parce que ça fait longtemps. Je n'ai pas révisé, mais au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, et Kadhafi, on sait où ça a mené. Et puis, on a quand même beaucoup aidé aussi, pour, même si on ne l'a pas fait directement, pour Bachar al-Assad, parce qu'on a quand même, à la base, on a quand même armé, etc., les ministres qui finalement se sont transformés en l'État islamique et qui sont retournés contre nous. Donc, Ouattara, merci pour les gens qui suivent. Donc, ne soyons pas les gens qui jugent comme ça en dessus. Attention, d'accord, parce qu'on n'a pas le cul propre complètement sur ce genre de choses.
Oui, évidemment. Et puis de toute façon, après, comment dire, d'un point de vue strictement régalien, lorsque l'État agit pour défendre son pays, ses frontières,
et c'est pas
son
toujours le cas, tu vois. C'est en Libye, par exemple, c'est pas le cas.
C'est même rarement le cas. Après, c'est voilà. Vrai que c'est une question de point de vue et que ça peut questionner sur le fait de trouver des excuses pour attaquer un autre pays. Mais là, clairement, Il y a des vols de plusieurs de dizaines de milliers de dollars d'actifs américains qui ont été confirmés par les cours internationales. Et puis, il y avait clairement un non-respect de la loi américaine en important de la drogue sur le territoire américain. Genre, c'est clair comme de l'eau de roche pour moi. Et là, on reste clairement dans du régalien.
Oublions que ce soit un président. Imaginons qu'on est en France et que vous avez un énorme narcotrafiquant qui est en Allemagne ou dans un pays qui est soit en Algérie, tiens, un énorme narcotrafiquant en Algérie. Personne n'aurait pleuré si on avait violé le droit international pour aller le chercher de force et le traîner en Algérie. D'accord ? Donc, il ne faut pas oublier, c'est un président, mais c'est aussi un trafiquant, c'est aussi un criminel. Voilà. Donc, encore une fois, moi,
Le droit international, c'est du vent, mec.
C'est de la bite.
C'est du vent, parce que, mec, c'est comme quand on t'interdit de tirer sur quelqu'un qui te vole ou qui t'agresse. Le droit international, c'est pareil. Si tu respectes le droit international, tu respectes ces lois à la con qui t'empêchent de défendre ta propriété privée.
Tous les trucs comme ça, les droits internationaux, les conventions de Genève, tous ces trucs-là, c'est de la bite parce qu'il n'y a que l'Occident qui les respecte. Donc en fait, ça ne fait qu'affaiblir l'Occident. Tout ça, c'est de la bite. La guerre, c'est la guerre. Il faut arrêter de cuquer. Ça, c'est ridicule. Non, mais c'est vrai. Et je suis l'avis d'Éric Zemmour. D'ailleurs, Éric Zemmour l'a dit. Il a dit, ça nous rappelle bien que le droit international, c'est de la flûte. Bon, il a pas dit ça comme ça, mais en gros, tu vois, que ça ne concerne que les gens qui le respectent. Mais c'est la vérité. Donc, à un moment, il faut savoir se défendre. Là, pour le coup, encore une fois, par contre, les histoires de « on va gouverner le Venezuela », etc., il faut que ce soit pour une transition rapide. Il faut que les Vénézuéliens redeviennent. Je comprends en fait, parce que je comprends qu'on veuille rester dans le sens, parce que si on part tout de suite, c'est les mêmes qui vont reprendre le pouvoir. La preuve, là, le ministre de la Défense, il est encore chaud, il y a encore du monde sur place.
Il y a encore la vice-présidente en place, il y a encore le ministre de l'Intérieur, le chef des armées. Je veux dire, toute cette mafia, elle est encore en place. Là on a coupé la tête, entre guillemets, du chef de la mafia.
Oui.
Mais par contre, c'est pas encore gagné.
Je comprends que pour sécuriser les intérêts américains, il faille rester un petit peu, mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit pour derrière finalement prendre le contrôle du pays, faire tout ce qu'on veut avec le pétrole sans demander rien à personne. Il faut que les Vénézuéliens aient leur mot à dire. Là, à l'heure actuelle, c'est clairement la population vénézuélienne est clairement heureuse. On le voit, il y a des célébrations partout. Les Vénézuéliens sont contents, mais c'est logique. Mais il ne faut pas que pour eux, ça se transforme dans un autre cauchemar. Parce que je le dis.
Il n'y a que les femmes blanches gauchistes qui crachent sur cette intervention.
Non, bien sûr, mais il faut être honnête.
Tous les Vénézuéliens aux États-Unis, ils sont super contents.
Ah oui, non, mais hyper heureux. Non, mais ça, c'est clair. Mais il faut être honnête intellectuellement. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas que ça se transforme comme en Irak.
Il y a un exemple de réussite d'un point de vue strictement utilitariste de ce côté-là, c'est le Panama. Le Panama, intervention américaine contre le narcotrafic et le totalitarisme communiste. Aujourd'hui, le Panama, c'est un pays exceptionnel.
Ouais. D'accord, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à cet exemple parce que je n'avais pas le dossier en tête complètement. Je me souviens vaguement de ça, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Non, mais voilà, donc il faut que ça se passe comme ça, encore une fois. Il ne faut pas que ça se passe comme ça s'est passé en Irak, etc., que ça dure des plombes. Mais vu le début de l'intervention, ça annonce du bon. Trump avait dit d'ailleurs qu'ils avaient prévu une deuxième vague beaucoup plus violente et que finalement il n'y a pas eu besoin et qu'ils pensent qu'il n'y en aura pas besoin, donc ça c'est une bonne chose aussi. Donc voilà, et ça a été salué évidemment par Javier Milei, ça a été salué par Nayib Bukele, ça a été salué par le nouveau président chilien. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire tous les gens qui en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Amérique du Sud luttent eux-mêmes contre le narcotrafic. C'est-à-dire, sont les gens qui sont les premiers. Bukele, il ne sait plus quoi en faire de ces prisonniers de gangs vénézuéliens. Il en a, il avait même proposé à Maduro, je ne sais pas si tu te rappelles, de les échanger contre des prisonniers politiques. Et Maduro a dit non parce qu'il s'en bat les couilles. Donc du coup, il se retrouve avec tout ça. Donc tous les gens qui sont directement touchés et qui pourtant sont des gens qui sont quand même souverains de leur pays. On ne peut pas accuser Bukele de vendre son pays à des trucs étrangers. Milei, c'est pareil, c'est des gens qui travaillent dans l'intérêt de leur peuple. Tous ces gens-là ont salué l'intervention américaine. Donc, il faut raison garder. Encore une fois, il faut savoir être mesuré. Jusque-là, tout ce qui a été fait, pour moi, c'est approuvé, c'est valide, et les raisons sont bonnes et les moyens d'action étaient bons. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'Amérique dirige le Venezuela pour toujours. Il faut que le Venezuela revienne au Venezuela comme avant l'invasion.
Il faut que l'Amérique récupère son dû qui lui a été volé. Voilà. Il faut qu'elle qu'elle mette un fin au problème que pose le Venezuela sur le territoire américain. Et ensuite, il faut évidemment que le Venezuela redevienne souverain très rapidement, même si, d'après un sondage de l'entreprise Alphabet, donc c'est pas n'importe quoi, 50% des Vénézuéliens, après tout ce qu'ils ont vécu, accepteraient que le Venezuela devienne une colonie américaine.
Non, mais en fait, c'est aussi ça le truc. Que... Mais
ils ont,
après,
tellement,
les gens...
ils ont tellement galéré, les pauvres. Voilà. Et ensuite, il faut aussi prendre en compte que pour l'Amérique du Sud, de manière générale, c'est exceptionnel comme nouvelle. Parce que tout l'argent de ce narco-dictateur, il est utilisé pour financer le socialisme en Amérique du Sud. Que ce soit Petro, le premier président de gauche en Colombie, a fait sa campagne avec l'argent de Maduro. Lula au Brésil recevait aussi beaucoup d'argent du narcotrafic de Maduro. Et en fait, pour eux, c'est stratégique d'un point de vue géopolitique que la gauche soit au pouvoir en Amérique du Sud.
D'ailleurs,
ils finançaient à coût de millions, de milliards.
Non, mais bien sûr.
Les gouvernements socialistes, communistes en Amérique du Sud. Et on a deux élections qui arrivent, mec. On a l'élection au Brésil et l'élection en Colombie en 2026. Deux élections présidentielles, les deux plus gros pays d'Amérique du Sud en termes de population. Et là, ça va mettre un gros frein au financement des campagnes gauchistes. Et très probablement, l'extrême droite va reprendre le pouvoir sur quasiment l'intégralité de l'Amérique du Sud.
D'ailleurs, en Colombie, il serre les fesses, là.
Ah ben oui.
Le gouvernement colombien serre les fesses parce que Trump a dit, on sait aussi qu'il y a des accointances avec les narcotrafiquants là-bas. Et vu qu'ils ont vu comment leur pote s'est fait réveiller à 3h du matin, tu vois, par les Delta Force. Le mec, il s'est réveillé et les Delta Force dans sa chambre, tu vois. Donc, ils se disent, ah bah, tu sais, ils commencent à se dire, ah, en fait, c'est pas des conneries. Parce qu'il faut regarder, il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est que Maduro a truqué les élections, faut pas oublier, hein. Il est pas au pouvoir démocratique.
Bon, après, ça ne regarde pas dans l'absolu, hein. Mais c'est
non, mais on l'a même pas.
C'est la cerise sur
le gâteau. Pour les gens qui pourraient penser, oui, mais les Vénézuéliens, ils sont responsables de ça, ils ont voté pour Maduro, même pas.
Ah non.
C'est-à-dire le mec a complètement trafiqué les élections et ensuite les législatives, il y a une sorte d'élection législative là-bas. Quand il a perdu les législatives, il a fait un autre. Il a créé son nouveau parlement, entre guillemets, à part, qui prend les décisions pour les lois. Comme ça, celui d'avant sert à rien. Donc, vraiment. Et puis, rappelons qu'il tire sur la foule quand il y a des manifestations, etc. Hein, donc, c'est vraiment.
Il y a plein de vidéos de blindés qui roulent sur la population.
Oui, qui roulent sur les gens et tout. Un dernier truc qui m'a fait rire aussi, c'est. Je me suis intéressé quand j'ai vu tous les gauchistes qui se soutiennent à la politique sociale de Maduro vis-à-vis des LGBT, etc. Il faut savoir que c'est complètement illégal. Hein. L'homosexualité, oui. Tout ça, tout est illégal. Il a une politique ultra anti-LGBT, mais vous avez tous les gays de Paris et de New York qui manifestent pour lui, quoi. C'est magnifique. Alors que son opposant politique est pro-mariage gay, etc., quoi. Donc vraiment, c'est vraiment, ces gens-là n'ont aucune colonne vertébrale. C'est à mourir de rire.
Oh, mais c'est de grosses merdes. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire aussi. Écoute ça, mec. Écoute Maduro quand il débarque dans les bureaux de la DEA.
Qu'est-ce qu'il dit? Dis bonne année.
Good night, happy new year.
Avec
un grand sourire aux agents de la DEA. Happy new year, ouais. C'est un branque.
Il est bien en vrai.
C'est peut-être un soulagement pour ce mec. Hein. C'est peut-être
un soulagement. Je pense pas qu'il l'ait traité si mal que ça. Je pense qu'il a eu peur de se faire abattre aussi. À mon avis,
oui.
Pendant un moment, il s'est dit, ils vont, parce que quand tu te fais embarquer et qu'on t'emmène en mer, en bateau, et tout, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas s'ils vont pas juste te mettre une balle et te jeter au large, tu vois. C'est parce que chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je pense que le fait qu'il voit qu'en fait, il est à New York, il va passer devant un tribunal, etc., dans un pays où, tu vois, on torture pas, pas officiellement les gens. Bon, je pense que peut-être qu'il a un petit côté rassuré aussi, tu vois.
Ouais, mais entre la pression interne dans le pays, le stress constant...
Peut-être qu'il se dit que c'était Nayib Bukele qui l'avait chopé dans son trait, passé différemment, tu vois. Donc là, quand il voit New York, il fait « Ah, en fait, c'est sympa, ici, il y a du chauffage, là, il y a de la boue. » Tu vois ce que je veux dire?
Donc, en Amérique du Sud, on arrive à un stade où on comprend que la seule façon de régler le problème communiste, c'est de les faire disparaître.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, tu vois, peut-être qu'il est content d'être à New York.
Est-ce qu'on passe au sujet suivant, mec? Parce que ça.
Vas-y. Je vais juste mettre la clim, j'arrive.
Nick Shirley, un jeune journaliste indépendant, a publié une vidéo virale aux 140 millions de vues en une semaine sur X. 140 millions, dans laquelle il va sur le terrain confronté de fausses crèches du Minnesota tenues par des fraudeurs somaliens. La vidéo a été relayée par le vice-président J.D. Vance et par Elon Musk. Dans la vidéo, Nick Shirley et un homme identifié sous le nom de David se rendent dans diverses garderies gérées par des Somaliens qui escroquent le gouvernement de millions de dollars de subventions sans réellement s'occuper d'enfants. Le reportage montre que les garderies en question sont toutes vides sans aucun enfant présent. Cette vidéo de Nick Shirley a été reconnue par les autorités fédérales et a incité le le ministère de la Santé et des Services sociaux a gelé les paiements destinés à la garde d'enfants dans le Minnesota. La procureure générale Pam Bondi a salué la vidéo de Shirley et a précisé que le ministère de la Justice enquêtait depuis des mois sur des allégations de fraude dans le Minnesota, que 98 personnes, dont 85 d'origine somalienne, avaient été inculpées, dont déjà 60 reconnues coupables par les tribunaux. Le directeur du FBI, Kash Patel, a lui déclaré que la fraude qui a été révélée jusqu'à présent n'est que la partie émergée d'un très gros iceberg. Les autorités affirment que des fraudeurs ont détourné des milliards de dollars fédéraux. Et pour finir, le premier assistant du procureur général des États-Unis, Joe Thompson, a lui déclaré que l'État avait signalé 14 programmes de sécurité sociale à haut risque, suspendu les paiements pour ces programmes et ordonné un audit par un tiers, précisant que ces 14 programmes dans le Minnesota avaient coûté 18 milliards de dollars depuis 2018. Encore une fois, on est sur l'équivalent de PIB de pays comme l'Islande ou la Bolivie, et qu'il y avait des raisons de croire que plus de la moitié de cette somme était frauduleuse en plus de tout le reste. Quel enfer. Quel enfer.
Bien sûr, mais pourquoi, il faut comprendre aussi peut-être pour les gens qui ne se rendent pas compte, pourquoi ça peut arriver, parce qu'en fait, ils sont protégés par le gouverneur du Minnesota qui est Tim Walz, l'attardé. Donc,
qui aurait été vice-président si Kamala Harris avait gagné. Hein.
Tim Walz, c'était le colistier de Kamala Harris. C'est vraiment le gauchiste de base, et en plus, il a tout le pack. Tu sais, c'est le gauchiste, mais pas... C'est pas genre dans le genre Zoran Madani. Lui, c'est vraiment plus dans le côté... c'est le vieux gauchiste blanc, tu sais. Option triche d'enfant, etc. c'est vraiment ce mec-là. Sauf qu'il est complètement teubé. Et lui, c'est le mec... il a les mains dans toutes les poches, quoi. C'est-à-dire qu'il est dès qu'il y a de la corruption, des affaires bizarres, il est là. Et on sait très bien qu'en fait, c'est lui qui a couvert tout ça. Hein. À l'époque, avec Black Lives Matter, il avait aussi beaucoup aidé. C'est pour ça que ça s'était complètement enflammé au Minnesota et tout. Tim Walz avait vraiment couvert ça et tout. Donc c'est grâce à ça que ça s'est fait. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont été cachés et mis de côté par le gouvernement du Minnesota pendant des années. Et que là, en fait, maintenant que c'est le gouvernement fédéral qui s'en occupe, bah, évidemment, ça se passe différemment, quoi.
Et tu sais pourquoi il faisait ça, le gouvernement du Minnesota ? C'est très simple, mec. Hein. D'un côté, ça permet d'attirer des centaines de milliers de Somaliens qui, au final, vont voter pour lui.
Ah oui,
et
oui,
en
tout
plus
à
de
fait.
Ça, tout cet argent de la corruption, ça fonctionne de manière très basique. Hein. Je suis un agent du gouvernement. Baptiste, t'es mon pote. Tu ouvres une entreprise dans une industrie subventionnée. T'as besoin d'avoir aucune activité. T'as juste besoin de t'inscrire. Moi, je décide. Je te donne des subventions. Tu m'en redonnes une partie et t'en redonnes une partie en donation au parti politique pour que mon parti gauchiste continue à garder le pouvoir au Minnesota.
Ah, mais c'est évident. C'est évident. Ouais. C'est toute une mafia qui s'est mis en place là-bas. Encore une fois, à partir du moment où tu laisse des gouvernements, quels qu'ils soient, être capables de gérer l'argent public des gens pour donner des subventions à des crèches, à des machins, à des trucs. Peu importe aussi, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus noble à la base qu'une crèche ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais quand tu dis ça, bah ouais, mais les gens pour les bébés, etc. Tu vois ? C'est-à-dire que tu peux avoir les meilleures raisons du monde. C'est là qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas de bonne raison d'utiliser l'argent public comme ça. Une crèche, ça peut être le truc. Même une crèche, ça peut être détourné. Et même à des sommes comme ça. Parce que là, on parle de millions, de milliards, etc. On parle de sommes gigantesques, tu vois.
Mais mec, c'est le PIB de la Somalie. Hein. Le PIB de la Somalie, il est estimé à 12 milliards de dollars.
Après, le PIB de la Somalie. Bon.
Oui, mais je veux dire quand même, t'imagines que ces Somaliens, ils ont escroqué plus aux États-Unis que ce que génère leur pays en un an.
Ouais, oui. Mais après, bon, je pense que le Dr Pepper rapporte plus au Texas que le PIB de la Somalie. Tu vois, tous les gens, il y a 28 millions de Texans qui boivent le PIB de la Somalie en soda.
En une journée.
En une journée, ouais.
Le prix moyen de la Somalie, il est de 68. Mec, en fait, c'est juste des énormes retardés sans aucune valeur.
Et, oui, mais c'est aussi pour ça que Tim Walz,
que ça marche.
Il les aime bien, ça marche.
Bah oui, parce qu'ils en font ce qu'ils veulent. Ah, je vais vous envoyer 1 million de dollars par personne, vous avez juste à rentrer vos informations sur un site internet. Ils sont complètement mongols, ils n'ont aucune valeur, donc ils prennent tous les risques possibles. Et puis la réalité, mec, c'est qu'un occidental avec de bonnes valeurs, il ne fait pas de corruption, de fraude. Un occidental avec de mauvaises valeurs, il va faire de la corruption, mais de la fraude, mais il va le faire de manière intelligente, sans prendre trop de risques. Un somalien, il s'en bat les couilles. Ils ont ouvert des vingtaines, des trentaines de garderies aux mêmes adresses.
Et, oui, et en fait, ils rentrent. Celle de la vidéo, elle est magnifique quand même. C'est-à-dire qu'elle est censée avoir, je ne sais plus, 200 enfants ou je ne sais pas quoi. Il n'y a personne. Ils n'ont même pas acheté, tu vois, genre, tu fais semblant pour que la garderie, elle ait l'air vraie. Genre, tu achètes des meubles et tout. c'est des salles vides, il n'y a pas de meubles, et il y a une faute d'orthographe sur le panneau d'affichage à l'entrée, il manque une lettre, et il y a écrit « centre d'apprentissage », en gros, je traduis vite fait, et c'est comme s'il y avait écrit « centre d'apprentissage pour les enfants », et qu'il manque le R de apprentissage, donc ça fait « centre d'apprentissage ».
Il y avait marqué « learning », il y avait marqué « learning ».
Learning, voilà. Ah oui, voilà, il montre une lettre au truc, il montre une lettre au truc qui dit apprendre, tu vois. Bref, donc c'est vraiment.
C'est pour ça que la corruption, c'est ultra simple et qu'il faut qu'il y ait le moins d'argent possible entre les mains de l'État. Parce que ces fils de pute, ils avaient juste à aller sur Internet, créer une entreprise dans l'État du Minnesota, envoyer une demande de subvention à l'État du Minnesota, avoir 2-3 contacts pour redistribuer l'argent dans la mafia et toucher des millions de dollars par crèche. Hein. Il y en a beaucoup qui touchaient 500, 600 000 dollars par an, mais il y en a qui touchaient 2-3 millions de dollars par an en subvention en n'ayant aucune activité. Donc, je sais pas si tu te rends compte, hein, mais l'Américain qui se lève tous les matins pour aller nourrir sa famille, aller travailler dans un chantier ou je ne sais quoi d'autre, ce mec, toute l'année, il se lève pour aller bosser, pour payer des impôts, pour que tu aies des putains de Somaliens qui vivent dans des maisons à 500 000 dollars en ne branlant rien de l'année.
Bah ouais. Ouais.
Le socialisme, c'est ça. Et c'est ultra sain. En fait, là, tu ne peux pas éviter la corruption. Tu ne peux pas l'éviter. Peu importe qui est au pouvoir, c'est ultra simple. Donc, arrêtez de filer de l'argent à l'État. Excusez-moi, je m'emballe.
Non, mais on le sait. Hein, c'est vrai. On va voir ce que ça va donner maintenant.
Ah bah oui, on va voir si ça va vraiment y avoir des réactions, si ça va réveiller l'Amérique.
Mais en tout cas, le gouvernement fédéral s'en occupe. Et vu comme, on va en parler juste après, ils se sont occupés de l'insécurité, etc. Jusqu'ici, quand ils commencent à se mettre sur un dossier... On l'a vu avec les clandestins, 660 000 clandestins déportés en 2025. C'est énorme, je sais pas si vous allez. Zéro entrée et 660 000 déportés. Donc quand les mecs vous expliquent, en France c'est compliqué, on peut pas traiter ça. Non, c'est pas compliqué. En fait, on l'a prouvé, ce n'est pas compliqué. D'accord.
Évidemment.
Il suffit de mettre les moyens, il suffit de donner les moyens à aux polices qui sont dédiées à ça, à les laisser agir, de vraiment vouloir, avec de la volonté, ça se passe très bien.
Mais c'est juste une question de stratégie politique. Le gouverneur du Minnesota, Joe Biden et compagnie, ils s'en battent les couilles qu'il y ait des clandestins qui rentrent parce qu'ils finissent par voter pour eux.
Bien sûr, mais c'est ça.
Au contraire, ils ont envie qu'il y ait un maximum de clandestins. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont s'efforcer à faire respecter les règles qui sont votées démocratiquement aux États-Unis d'ailleurs? Et mec, il y a des coïncidences assez troublantes. Le ministre des Affaires étrangères de Somalie, Abdi Salam Abdi Ali, est propriétaire d'une entreprise de soins de santé domiciliée dans l'Ohio. Deux autres entreprises de santé occupent les mêmes locaux que la sienne et plusieurs autres appartenant à des Somaliens aussi sont enregistrés à la même adresse, comme par hasard.
Comme c'est bizarre.
L'ambassadeur de Somalie auprès de l'ONU. Tout ça, c'est vérifiable très facilement.
Ouais.
Aboukar Dahir Osman, qui était administrateur de soins de santé dans l'Ohio. Une autre entreprise de santé occupe aujourd'hui les mêmes bureaux que la sienne, sous un nom différent. Et plusieurs autres sont aussi enregistrés à la même adresse, toutes avec des noms somaliens.
Putain, mais là, on va découvrir des trucs incroyables encore. C'est que la pointe immergée de l'iceberg pour le moment.
Le travailleur américain, le créateur mais de richesse américain, et tout cet argent qui était renvoyé en Somalie et pour financer aussi des groupes terroristes ou je sais quoi d'autre.
Bien sûr. Et pour une fois, comme ça peut aussi vous faire vous sentir mieux. Vous voyez, c'est pas qu'en France, pour une fois. Même aux États-Unis, vous voyez, c'est la même chose. C'est alors dans d'autres mesures, mais vous voyez, il suffit qu'un gouverneur. Qu'il y ait des gouverneurs complices, etc. Et c'est la même chose. Donc, le socialisme fait des dégâts partout. Partout.
Évidemment. Plus de 40 garderies qui ont ouvert leurs portes à Columbus, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi ça dans d'autres États, évidemment. Dans l'Ohio. Le même jour, et aurait
un... État gauchiste, au passage. Hein.
Ouais, évidemment. 40 garderies ont ouvert leurs portes à Columbus, dans l'Ohio, le même jour, et elles auraient ainsi empoché 14 millions de dollars de subventions financées par le contribuable en une seule année. L'État de Washington compte 5000 structures d'accueil d'enfants, plus de 500 d'entre elles sont gérées par des Somaliens, aucune adresse physique, pas d'horaire d'ouverture, et évidemment participation aux subventions pour toutes ces entreprises. Il y a aussi la découverte à Minneapolis de 60 entreprises de soins de santé ouvertes par des Somaliens à la même adresse dans un entrepôt délabré. Donc quand tu vas voir l'adresse, c'est un énorme entrepôt délabré, il n'y a rien du tout. 60 entreprises de santé sont là et touchent les subventions et facturent des soins à la sécurité sociale américaine.
En Medicare. Hein.
C'est quoi cette folie?
Des Encore Somaliens une fois, tu crées... C'est ça, c'est Medicare. Ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas de soins remboursés par l'État. À partir du moment où il y a une faille, c'est parti. Merci Obama, exactement.
Dès qu'il y a de l'argent public, vous êtes sûr qu'il y a de la subvention. Je vous laisse imaginer en France, les gars. En France, c'est décuplé, hein, parce qu'en France, il y a largement beaucoup plus d'argent public en pourcentage du PIB et par tête. Des Somaliens du Minnesota ont mis en place de faux centres médicaux et ont diagnostiqué frauduleusement l'autisme chez leurs enfants afin de voler systématiquement des milliards de dollars de fonds publics via Medicaid. Encore une fois, les demandes de prise en charge de l'autisme par Medicaid sont passées de 3 millions de dollars en 2018 à 399 millions de dollars en 2023, juste en déclarant que ton enfant était autiste.
Je jure. Ce qui n'est pas faux.
Alors, regarde-moi ça. Ça, c'est Tim Walz qui remplace le drapeau du Minnesota par le nouveau drapeau du Minnesota qu'il a décrété.
Qui ressemble au drapeau de la Somalie, je sais, ouais.
Exactement.
Je sais pas.
Et regardez, il installe le drapeau de la Somalie slash Minnesota comme nouveau drapeau de l'État du Minnesota. Et regardez-moi ça. Ça, c'est les drapeaux de la Somalie dans l'histoire. Tous bleus avec une petite étoile blanche. J'ai l'impression qu'il a fait un mélange de tous ces bleus-là. Il a rajouté l'étoile blanche. Si vous allez pas me dire qu'il ne va pas chercher l'électorat somalien qu'il apporte, qu'il subventionne pour rester au pouvoir. Et à mon avis, il s'en met plein les poches au passage. Regardez-moi le maire de Minneapolis cette fois-ci. Le maire de Minneapolis, c'est la capitale du Minnesota, où je crois que c'est la ville la plus importante du Minnesota. Regardez ça. Ça, c'est le maire de Minneapolis. De je ne sais où avec le drapeau somalien, il y a plein de somaliens derrière. Et le mec, il donne carrément des discours en somalien.
Assalamu alaikum. Habin wal aksan. Maga yega wa yarub farid.
Et tout ça, c'est pas une énorme mafia, bordel.
L'électoralisme pur, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est que le mec, il fait plaisir aux Mongols, et puis voilà, il est content, il vote pour lui, et lui, derrière, il continue à s'en mettre plein les poches. C'est... Tu vois sa gueule. Est-ce qu'il a l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Le mec, on dirait qu'il est sorti de, tu vois ce que je veux dire, Little Italy. Le gars, c'est le mafieux de base, tu sais. Il est là, c'est vraiment ça, tu sais. Bon, alors, vous êtes contents? Ouais,
ok. Dans les films.
Ah, mais c'est vraiment ça.
Donnez-moi vos votes et redonnez-moi un peu d'argent de la fraude et tout le monde sera content.
Regardez, j'ai même mis votre drapeau, vous avez vu? Oui, ils sont contents, ils vont manger du riz. C'est vraiment ça, quoi. Putain,
c'est les pires enfleurs du monde, c'est des psychopathes. Déjà, il y a deux choses à prendre en compte, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre à la place de tous ces politiciens psychopathes, parce que la grande majorité, c'est des psychopathes, et on n'arrive pas à se mettre à la place de tous ces abrutis du tiers-monde. Il y a des régions en Somalie, des régions en Inde, mec.
Tous ces abrutis du tiers-monde.
Le mec, tu te rends pas compte, hein.
A plus aucun filtre.
Ouais, mais c'est la vérité. Mec, quand t'as 68 de QI, t'es considéré comme déficient mental en Occident. Et l'autre réalité, mec, c'est qu'il y a des régions en Inde, ou même en Somalie, où ils ont justement des valeurs qui n'ont rien à voir avec les nôtres, et ils n'ont aucun amour propre par rapport à leurs propres paroles. Ils s'en fichent de respecter leurs paroles, ils s'en fichent d'être honnêtes, on ne se rend pas compte. Ils ont des valeurs, pas partout dans le monde, il y a des pays dans le monde, ils ont de très bonnes valeurs. Mais il y a certaines régions du monde où ils ont vraiment des valeurs où c'est juste, ils s'en battent les couilles.
La morale n'est pas la même.
Ouais. Exactement. Je voulais juste finir avec ça. Évidemment, Tim Walz a déclaré que c'était de la suprématie blanche que de condamner les Somaliens.
Oui,
parce que les Blancs aussi fraudent. Quel enfoiré.
Oui, oui.
Il y a CNN qui a
interviewé. T'es un peu dans la merde. Quand t'as un truc pareil, tu sais, tu utilises toutes les cartes joker que t'as parce que là, c'est tellement énorme. C'est
Il y a les journalistes de CNN qui ont interviewé Nick Shirley, le jeune journaliste. D'ailleurs, il y a un slogan qui cartonne en ce moment aux États-Unis, c'est que soyez vous-même les médias. Arrêtez de faire confiance à tous ces médias subventionnés proches des gouvernements. Soyez vous-même les médias. C'est un petit journaliste indépendant de 23 ans qui a fait 140 millions de vues et qui a exposé cette énorme fraude.
Et qui démarre un scandale national.
Ouais. Ça, c'est le vrai journalisme. Hein. Il mérite le prix du journalisme international plus que n'importe quel journal à la con. Ouais. Et la réalité, c'est que ce mec, il a été interviewé par CNN, évidemment à charge. Vous n'avez aucune preuve, c'est pas vrai ce que vous dites, etc. Alors que littéralement, il va de porte à porte dans les garderies pendant les heures d'ouverture et qu'il y a zéro gamin. Il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. Et deuxièmement,
il n'y a rien. Ils veulent même pas le faire rentrer, rien.
CNN, ils ont essayé de prouver le contraire. En live, ils ont appelé 10 entreprises de garderies au Minnesota. tenu ouais. par des Somaliens. Il n'y en a qu'une seule qui a répondu sur les 10 pendant les heures d'ouverture. Et la personne qui a répondu, elle a déclaré « Non, non, nous ne faisons pas de fraude. » Et donc, ils ont conclu, vous avez vu, il n'y a pas de fraude dans toutes les garderies somaliennes au Minnesota. Le journalisme de merde.
Mais après, c'est CNN, hein. C'est les mêmes que chez nous. Ah, hein. Oui. C'est l'équivalent Pierre Plotu, mais à qui tu donnes des millions. Quoi. C'est vraiment ça. Enfer.
81% des familles somaliennes reçoivent des aides sociales. Donc ça, c'est énorme. T'as déjà entendu parler de Ilhan Omar, l'espèce de somalienne là avec un voile.
Ah oui, je vois, oui, ouais. oui, bien sûr.
Je vous la mettrai à l'écran sur la rediff. Une somalienne, évidemment. Son net worth, son capital en 2019, il était de $45,000. Aujourd'hui, en 2025, il est de $30 millions.
Bref.
Sur un salaire de 174 000. Et pour conclure ça, je veux juste de faire une citation de Joe Rogan par rapport à Elon Musk. Quand Elon Musk a racheté Twitter, je pense qu'il a changé le cours de la civilisation. Nous étions sur la voie de ce système dystopique et étrange qui était déjà en marche. Sans Twitter, sans X, sans ces journalistes indépendants, ça se trouve, il n'y aurait jamais eu ce scandale.
Ben, je te propose c'est ça. C'est pas le problème de glorifier Elon Musk et tout, c'est juste le fait d'avoir une plateforme libre avec une grosse visibilité, ça change la donne. Ça change la donne, clairement.
C'est pas pour rien qu'on fait nos lives sur X d'ailleurs.
On est nous-mêmes en live, j'allais le dire, sur X à l'heure actuelle.
Ouais. 100%. Et donc,
d'ailleurs, il y a bien un jour où on sera viré de tout sauf de X, hein, certainement, et où on sera les lives
probablement,
sur X.
Ouais. D'ailleurs, allez me suivre sur X.
À force de dire par des citations du style, tous ces, je sais plus ce qu'il a dit, là, tous ces attardés du tiers-monde, c'est sûr qu'il y a un moment où il n'y a plus personne qui va vouloir de nous. Tu vois.
Ouais, non.
Bon, vas-y, viens, on fait la criminalité aux États-Unis parce qu'il me reste un petit quart d'heure. Parce que en fait, pour que j'explique aux gens, j'ai ma famille en ce moment qui est ici aux États-Unis. Je les vois pas souvent. Là, il me visite, donc c'est pour ça qu'on a décalé le live tôt, parce que pour moi, c'est tôt le matin, en gros. Enfin, tôt, là, maintenant, il est 11h, mais j'ai démarré à 10h le matin, comme ça, eux, ils prennent leur petit-déj tranquille, et je les récupère après pour pas les laisser en plein milieu de la journée tout seul, quoi.
Parfait, un bon fils, et des bons parents qui vont visiter leur fils, t'as de la chance. Et selon l'analyste criminologue référence Jeff Asher, les États-Unis sont en passe d'enregistrer la plus forte baisse annuelle du nombre de meurtres jamais enregistrés. L'indice Real-Time Crime montre en effet que le taux d'homicide a diminué de près de 20% à l'échelle nationale entre 2024 et 2025, comme par hasard. Les villes touchées par la violence par arme à feu ont commencé à enregistrer une baisse constante du nombre de meurtres. Albuquerque, au Nouveau-Mexique, qui figure parmi les 10 villes américaines ayant le taux de meurtre par habitant le plus élevé, a connu une baisse de 32,3% du nombre de décès. Baltimore, une autre ville figurant sur la liste, a enregistré une baisse de 31% des meurtres entre 2024 et 2025 aussi. Atlanta a connu une baisse de 27% des meurtres, tandis que Birmingham, en Alabama, a enregistré la baisse la plus importante avec 49%. Le président Trump a lancé des initiatives ciblées visant à réduire la criminalité dans les villes et les États dirigés par les démocrates, notamment Chicago et New York. Depuis le début de son deuxième mandat, il a ordonné à la garde nationale de réprimer la violence dans différents États. Les dirigeants républicains suivent son exemple en déployant des soldats dans des endroits comme Memphis, dans le Tennessee. Cette année seulement, pour terminer, Memphis a enregistré une baisse de près de 20% des meurtres par rapport à 2024, tandis que Chicago a enregistré une baisse de 28% selon Axios. Environ 12 000 personnes de moins ont été assassinées aux États-Unis en 2024 et 2025 qu'en 2020 et 2021, a déclaré M. Asher. Les données annuelles montrent aussi que les vols ont diminué de 18% à l'échelle nationale, les crimes contre les biens ont diminué de 12% et les agressions aggravées ont baissé de 7,5% selon l'indice Real-Time Crime Index. Je te laisse la parole.
On n'a pas les chiffres complets aujourd'hui parce que en cours, par exemple, on n'a pas encore les chiffres de Washington DC avec la garde nationale qui a été déployée à Washington DC, qui était la ville la plus, je crois, une des villes les plus criminogènes aux États-Unis et que ça s'est effondré. En ce moment, ils sont aussi à la Nouvelle-Orléans grâce au gouverneur de Louisiane qui a demandé. Parce que, par exemple, à Chicago, Trump l'a dit là dans sa conférence de presse là, qu'il a fait hier, que j'ai regardé hier matin, il a dit justement qu'à Chicago, ça a été très compliqué parce que le gouverneur s'est montré extrêmement virulent, enfin tu vois, non coopératif, parce qu'on sait ça aussi, il faut la coopération des gouverneurs, il s'est montré extrêmement non coopératif, donc ça a été beaucoup plus compliqué à Chicago et tout, mais dans les villes où ça se passe bien, à Memphis notamment, à Washington, ça, apparemment ça a été exceptionnel, tout ça, donc il y a ça qui flébite la criminalité, il y a aussi le fait que 660 000 clandestins en moins évidemment, aux États-Unis, bah, ça fait baisser énormément la criminalité, hein. C'est évident. Mais sur le taux, tu l'as le graphique que je t'ai donné par rapport au meurtre par, avant que tu le montres. Avant que tu le montres. Souvent, vous entendez un argument, très très souvent, qui dit « Oui, le taux de meurtre par mafia aux États-Unis est gigantesque, c'est pour ça que ce n'est pas un pays safe, etc. » Quand vous dites, par exemple, « Ouais, mais au Texas, c'est très safe », on dit bah, « Pas du tout, regarde le nombre de meurtres par mafia, etc. » Moi, souvent, on parle de la concentration des meurtres par arme à feu dans les grandes villes, dans les quartiers pourris, etc. Maintenant, je vais vous montrer par couleur. C'est-à-dire, si vous êtes blanc, si vous êtes mexicain, si vous êtes noir, etc. Vas-y, je te montre le graphique pour que vous compreniez quand les gens disent qu'il y a un problème avec les armes à feu aux États-Unis. Voilà, ouais, très bien. Ah. Donc là, vous avez le nombre de meurtres. Moi, je vais le mettre sur mon téléphone pour le voir. Le nombre de meurtres par arme à feu pour 100 000 habitants, d'accord ? Chez les Noirs, c'est 19,8, d'accord ? Chez les Blancs, par contre, c'est 1,7 chez les Blancs américains. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, on est à 2,6. D'accord ? Ouais. Donc, en fait, aux États-Unis, il n'y a pas un problème de meurtre par arme à feu. C'est très clair. Oui. C'est-à-dire que chez les Blancs, il n'y a pas ce genre de problème. Si vous êtes blanc et que vous vivez au milieu des Blancs, vous avez moins de chances de vous faire assassiner par arme à feu qu'en vivant en France. Donc, vous voyez, le problème avec la criminalité, il est clair. Il n'est pas lié aux armes à feu. Il y a un problème qui est tout autre. Il y a un problème de population. Donc, et comme ici, les choses sont extrêmement racialisées, en fait, les gens comme moi qui vivent en campagne ou dans les banlieues blanches, etc., en fait, vous ne voyez jamais la criminalité. Elle est tellement concentrée qu'en fait, on vit dans des pays différents. Là où moi, je vis, dans la plupart du territoire texan, c'est extrêmement safe. Il n'y a rien.
Et je vous parle pas des ultra concentrée. Elle est ultra concentrée dans les États et les villes démocrates où les armes à feu sont extrêmement légiférées.
Voilà, exactement. Exactement. Donc, c'est vraiment… Et quand vous vivez dans un État comme le Texas, etc., si vous n'êtes pas dans les quartiers de gangs de Fort Worth, de Houston ou de… Pardon. Ou de Dallas, tout ça, ça n'existe pas. Donc, encore une fois, à partir du moment où vous faites intervenir la garde nationale dans ces endroits-là, où vous renforcez la sécurité dans ces endroits-là, évidemment, les taux chutent énormément. Parce que quand on réfléchit, quand vous voyez la chute de la criminalité aux États-Unis, là, on vous donne des pourcentages qui sont énormes. Alors qu'en vérité, ce n'est que quelques endroits qui ont été ciblés, hein. Par rapport à la taille des États-Unis et à la population, c'est rien. C'est rien. Littéralement, hein. On parle de 4-5 villes sur un pays gigantesque de 350 millions d'habitants. Enfin, je ne sais pas si on voit, on se rend compte, tu vois. Donc, c'est la preuve qu'il y a une concentration de la criminalité qui est gigantesque.
C'est fou de se dire que des Afro-Américains qui sont là depuis plusieurs générations commettent 3 à 4 fois plus de meurtres que des Hispaniques qui souvent viennent d'arriver, dont certains font partie de gangs. C'est fou quand même.
Et commettent 11 fois plus de meurtres que les Blancs.
Putain, c'est dingue.
11 fois plus. Donc, c'est...
Que les Blancs américains, voilà. Ouais.
Que les Blancs américains. Donc, bon, c'est... Et là, quand on parle, par exemple, de... Quand les gens vous disent que c'est qu'une question de culture, c'est une question d'assimilation, etc., on ne peut pas faire plus assimiler que les Noirs américains. C'est-à-dire que les Noirs américains n'ont pas d'identité africaine. Ils n'ont pas d'identité, tu voyez. Ce sont des gens qui sont là.
Propre identité, quoi. Afro-américains.
Ce sont des gens qui sont là depuis toujours. Enfin, depuis. Ils sont nés aux États-Unis, leurs parents, leurs grands-parents, etc. Donc, il y a un problème qui n'est pas que culturel. C'est évident. C'est évident.
Il n'est pas que culturel.
Ils parlent la même langue, ils ont la même religion. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas qu'une question de quand les gens vous disent non, mais ils viennent d'une autre culture, c'est pour ça ils ont du mal.
Mais ils viennent pas d'une autre culture, donc c'est pas un problème culturel. Voilà. Mais le problème, c'est un problème de crise de valeur. Le problème, c'est que quand t'as une énorme majorité des familles afro-américaines qui sont monoparentales, quand tous les gamins ils grandissent sans père, quand ils sont à l'argent de l'État,
pourquoi les Noirs abandonnent leurs enfants plus que toutes les autres ethnies? Tu vois ce que je veux dire? À un moment, il y a un truc qui est génétique aussi. Il y a quelque chose qui sont des différences que tu peux pas. Ça veut pas dire qu'il y a pas des exceptions, mais il y a des différences que tu peux pas gommer entre un Africain et un Blanc. Tu vois, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont comme ça. Ils ont une proportion à la criminalité qui est beaucoup plus importante, même quand tu les mets dans les mêmes situations, dans les mêmes. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, il y a évidemment des différences génétiques.
En fait, aux États-Unis, ils ont les mêmes chances que tout le monde. Les gens qui vous disent non, mais ils vivent dans des ghettos, je sais pas quoi, c'est de la connerie. Ça. Aux États-Unis, tout le monde a les mêmes chances. Tout le monde a les mêmes chances de réussir. Mais c'est eux qui créent eux-mêmes leurs conditions d'échec. C'est eux qui décident de se droguer, c'est eux qui abandonnent leurs enfants, etc. et qui se retrouvent dans la merde. Tous les Noirs qui veulent s'en sortir aux États-Unis, il y en a plein. Hein. Et ils s'en sortent super bien, ils vivent très très bien. Donc c'est pas... Il n'y a plus l'histoire du facteur c'est des immigrés.
Dans les grandes universités américaines, ils reçoivent de facto 200 points supplémentaires lors des concours d'admission dans les universités. Tu sais que l'État américain donne de l'argent à toutes les femmes monoparentales afro-américaines. Il y a aussi une explosion de la monoparentalité, en plus de ce que tu m'as expliqué. Mais en gros, le socialisme, ça ne vient pas aider là-dedans. Il y a eu une explosion de la monoparentalité au moment où ils ont commencé à subventionner les femmes célibataires.
Bien sûr, le socialisme, en fait, c'est le pire truc parce que c'est le terreau fertile pour tous leurs mauvais côtés. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu sponsorises la fainéantise, tu développes ça. Les mecs qui se droguent, etc., ben, ils survivent. Moi, je le vois bien. Pourquoi ? Parce qu'on les nourrit, on leur donne des logements, on les habille, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils vivotent. Hein, on est d'accord, c'est pas magnifique, mais ils survivent. Ils meurent pas de froid dans la rue au premier hiver. Donc c'est le terreau fertile à tout ça et ça développe encore plus leur mauvais côté. C'est évident.
Ils font des gamins qui vont aussi devenir des drogués potentiellement. Et puis ça, en fait, ça le socialisme, ça permet à ce qui ne marche pas, à ce qui est mauvais, de se décupler sur le dos de ce qui marche, de ce qui crée de la valeur et de ce qui est moral.
Ouais, tout à fait. Enfin voilà, tout ça pour dire que, vous voyez, quand vous avez un président qui prend ses responsabilités et qui agit sur des choses concrètes, ce n'est pas si difficile. Tous les gens qui vous vendent le truc en mode « non, mais c'est très compliqué ça », non, ça ne l'est pas. Ça n'est pas si compliqué. Le problème, c'est qu'il faut avoir un peuple qui le veut vraiment. Ça, c'est notre premier problème en France. Il faut avoir un peuple avec des couilles qui le veut vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que la bonne partie du peuple ait des couilles. Et ça, c'est le gros problème en France. Et ensuite, il faut mettre les moyens et avoir la vraie volonté. Il ne faut pas que ce soit juste des paroles. Il ne faut pas que ce soit Darmanin, quoi. Il ne faut pas que ce soit en mode oui, ou Retailleau, tu vois. Oui, on va le faire et tout. Et derrière, il n'y a rien. Là, il faut aller jusqu'au bout. Voilà.
Et encore une fois, en tout cas, moi, en tant que minarchiste qui prône un État régalien, je ne veux pas que l'État aille financer des crèches qui vont être ultra frauduleuses. Je ne veux pas que l'État aille financer des femmes célibataires parce que ce que tu subventionnes, ça se développe encore plus. Je ne veux pas que l'État aille subventionner la culture gauchiste parce que ça devient des fonctionnaires et ce n'est pas des artistes, etc., etc. Là, nous, ce qu'on prône, c'est simplement un État fort, mais sur le régalien, rien d'autre.
Bien sûr. Il ne
faut pas qu'il y ait de confusion. On veut que l'État intervienne, mais sur le régalien, sur la défense de votre intégrité physique et de votre propriété privée.
Encore plus d'ailleurs, parce que quand vous avez, quand vous économisez sur toute la merde, tu vois, sur tout le, vous pouvez encore plus agir sur le régalien, etc. Faut pas oublier que les États-Unis, c'est le plus gros budget mondial pour la défense, d'accord ? C'est-à-dire ce que les États-Unis mettent dans l'armée, ce qui leur a permis de faire ce qu'ils viennent de faire, c'est l'équivalent de l'intégralité du budget de la défense de tous les autres pays du monde réunis, d'accord ? Et donc, ça veut dire qu'on arrive aux États-Unis à avoir ça en payant moins de taxes qu'en Europe. Donc, il y a quand même, c'est bien une question de où est-ce que tu mets l'argent aussi ? Bref,
une question donc, ça de veut mafia. Dire qu'en France...
En France, en payant 100 fois moins d'impôts qu'aujourd'hui, on pourrait avoir une armée 10 fois plus forte.
Mais évidemment, je crois qu'on met, on met à peine 6% dans le régalien.
On met que 6%
dans le régalien, le truc le plus important, le respect de la propriété privée et de l'intégrité physique. Et par contre, il y a quand même j'aimerais bien conclure sur le fait qu'il y a vraiment... Ouais, bah je conclue là-dessus, il y a vraiment un vent favorable en Amérique du Sud, que ce soit avec l'élection de Castro, avec Milei qui a de super résultats.
J'ai hâte de voir le président du Chili, de voir ce qu'il va faire.
Ouais, j'ai hâte de voir les élections.
Là, c'est son investiture bientôt, là.
Ouais, la Colombie et le Brésil vont potentiellement passer à l'extrême droite aussi. Donc, on va peut-être avoir 90% des pays du continent américain qui passent à l'extrême droite sur l'échiquier politique français.
Il y a le Canada qui va sortir seul.
pendant que l'Europe va dans le sens inverse. Mais le Canada, on n'oublie pas que c'est que 39 millions d'habitants, c'est moins que la Californie. Donc, même si c'est un gros pays, ça ne pèse pas beaucoup en termes de population. Je te remercie énormément, Baptiste. Allez sur nos Patreons.
À bientôt.
Allez faire le concours de Baptiste, absolument. Le lien est en description. C'est pour la bonne cause.
Et un vrai voyage au Texas à gagner. un beau voyage pour deux personnes, vol, logement inclus et 2000 euros d'activité au choix. C'est un vrai prix. Tirage au sort le 15.
Pas mal du tout. Et en plus, vous pouvez rencontrer un frigo, Baptiste. Ça, c'est quand même pas mal. C'est la cerise sur le gâteau. Ciao, mec. Bye bye.
Et puis, on vous voit la semaine prochaine. Radio Dixie, la semaine prochaine.
Ah, cool. J'étais pas au courant, mais parfait. Ciao, les gars.
À plus tard.